YouTube Hercule.
YouTube Hercule. Mais vous n'y échapperez pas.
Mais vous n'y échapperez pas.
Jamais.
Patrick. Patrick le lombric. N'a pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, pas d'oreille, dans son simple appareil. Tu es plus canon qu'une toupe modèle. Tu l'as pour le sol pour que nos plantes soient belles. Allez, tous les lombrics, tape dans les mains. On monte le volume du compost à fond. Faut que ça chauffe pas.
YouTube Hercule.
Mais vous n'y échapperez pas.
Vas-y, Patrick.
Jamais.
Écoutez, c'est bon, je crois que le direct est parti.
Ouais, c'est bon.
Ben oui, monsieur Bourly.
Et voilà, ben on se retrouve pour parler biotopie pour des sols vivants. On est à la journée festive, on est le samedi 11 mars. On est au tiers-lieu Sainte-Marthe-à-Grasse, on est déjà venu plusieurs fois. Et donc toute la journée, il va y avoir des tas de trucs qui vont se passer ici. Avec des expositions, un escape game, une table ronde sur les solutions de régénération des sols. Et puis un concert de musique qui risque de commencer dans pas trop longtemps, mais enfin on verra bien. Et puis des ateliers pour plonger ses mains dans la terre, pour parler des puits de carbone, de la décomposition, observer et écouter la faune du sol. Tout ça, du sol, pardon, tout ça avec une buvette où on vient de se restaurer là. Bon, les viandards sont en larmes, mais bon, ça fait partie du jeu. Et on sait qu'ici, il n'y a ni viande ni alcool, donc vous voyez, hein, quand on parle de sacrifice, vous savez que. Nous, on est au top, on est toujours prêt à tout. Vous allez pouvoir écouter la table ronde sur les solutions de régénération des sols. Une table ronde qui est animée par Christian Carnavalet et Bruno Campana. Et puis après, on se retrouve avec Bruno Campana pour aller un petit peu plus loin et lui poser les questions que les gens ont posé lui poser tout à l'heure. Allez, allez, envoyez la musique.
On balance la musique ?
Ouais, c'est le mieux.
Allez, c'est parti.
Allez, feu.
Tu gâtes rien à bouffer dans terre et moi si plus fort que les poubelles mal, j'suis des débris. Bla bla, le déchet pourri manteau. Bla bla, il devait finir dans un pot. Bla bla, pas moyen de faire demi-tour. Le Master One est de retour, ça va balancer du lot. Y'a trop de salauds qui ont voulu faire la peau. Mon terreau, j'le fabrique pour 0 euro. Mais j'fatigue de ces années de lutter de boulot. Et j'ai une mission à finir, j'dois passer flambeau. Maître compenseur, il est l'heure de choisir le nouveau master. Tout le monde est excément l'air exubère de terre.
C'est toi aussi tes comptes effets serre. Mets tes mains en terre, mets tes mains en terre.
Tout le monde aime sa main en l'air et j'y vais en terre.
Père, 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 père.
Son jardin c'est pas si galère. On la barre d'affaires, la vermi compostière.
L'endroit
fouille. C'est encyclique.
Tu peux trembler.
J'ai un gros lombric.
On te dévore.
Ton compost est comme ton flot, il n'est pas mûr. Moi je te brûle dans un bras zéro, je fais toi de la cire. Tu t'es trompé de boulot, t'es une imposture. Pour avoir le bon niveau, check la mixture. Et sois sûr que sous le creux, les vers de terre soient masqués. Rien n'annule la force des déchets.
Je te découpe en 10 morceaux, je t'amuse fin. À ça j'ajoute la dose copeaux, requise à faim. Que doucement tu m'assères, que mes insectes ingèrent. Que mes copains se mazonnent de tes poils de carotte. Mixé au humus, tu nourris mes pétunias. Garnis mon pécus et me fournis du pécola. Efface au rictus, oublie ce combat. Tu vois, y'a aucune astuce au gros tamou comme toi.
Tout le monde aime ses mains en l'air et j'y vais de terre.
C'est toi aussi tes comptes et fais serre. Mets tes mains en terre, mets tes mains en terre.
Tout le monde aime sa main en l'air et j'y vais de terre.
Son jardin c'est pas si galère. On a barre d'affaires, vermi compostière.
Des deux mètres composteur, c'est qui le meilleur? T'es dans ma ligne de mire, t'y conseilles si tu t'avises de me prendre à verre. Quand je t'appelle et révise pour réapprendre tes vers. T'es la hachuma du compostage sur BX. Ce que t'as là c'est un carnage, c'est pas un mix. Ça fly le pourri à travers toute la city. Même tes mouchettes en fouille pour s'installer sur Paris.
J'ai le plus gros tas d'échelle, le plus grand respect des vers. Tu n'arrives pas à mes pieds avec ta technique de faussaire. Mais arrête un peu de faire le boss, tu ne sais pas trier. Et mec c'est un compost ou un tas de fumier? Même si t'as pas la forme, t'es essoufflé quand tu rappes les vers s'endorment. Se sont suicidés, tu ne fais que me jalouser. Car mon compost est énorme, je suis le master. Wow.
Tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde lève ses mains en l'air.
et Massive. Tout le monde les mains en l'air. Dites-nous si ça se compose ou pas.
Quelques mots rapides. D'abord, évidemment, pour remercier le conseil départemental que vous représentez, monsieur le président, qui a cofinancé ce projet Biotopie, qui a été retenu à l'origine par la fondation Daniel et Lina Carasso, fondation qui soutiennent aujourd'hui des recherches, de l'expérimentation tenant compte de l'art, des techniques, enfin, qui soutient les initiatives qui vont chercher des solutions dans les marges. Le cofinancement du conseil départemental dans le cadre du programme Green Deal a permis de pouvoir mener ce projet long par la force des choses, puisqu'on parle de la vie dans les sols. Et c'est parce qu'on a eu ces 2 ans que l'on a pu obtenir les résultats qui sont présentés aujourd'hui et considèrent comme étant très positifs et plus qu'encourageants, notamment dans les relations avec les jeunes collégiens du territoire. Mais malgré tout, monsieur le président, l'enjeu est d'importance. Aujourd'hui, c'est une journée de présentation, c'est festif. Cette journée, elle cherche à traduire quand même les enjeux importants qu'il y a à prendre en compte la vie dans les sols et l'évolution de nos façons de pratiquer. Il y a un enjeu de résilience au territoire, il y a un enjeu de citoyenneté et il y a un enjeu de durabilité. Et c'est sur ces points-là que ce projet Biotopie, sous tous ses aspects, cherche à contribuer la prise de conscience. Merci en tout cas pour votre présence et votre soutien.
Merci de votre accueil, merci de m'avoir invité, merci de ce qui est fait ici, merci d'être ces agitateurs d'idées qui permettent aussi d'apporter au département des Alpes-Maritimes dans le cadre d'appels à projets, parce que c'est moteur, parce que ça apporte des idées nouvelles et parce que ça contribue à ce que nous voulons signer dans le département des Alpes-Maritimes. En tout cas, merci beaucoup.
Merci Monsieur Viau, merci Philippe. On n'est pas toujours très bon dans le protocole, donc je ne sais plus dans quel ordre on doit faire les choses. Voilà, c'est important pour nous de le signaler. Donc c'est un projet partenarial. On a une structure à Nice avec qui on a fait ce projet, qui s'appelle donc le Hublot. Je passe la parole au directeur.
Donc là, il y a eu un transfert un peu entre le Hublot et le Tetris et Valeco à Grasse. Et donc pour nous, c'est très important d'assister à ce type de conférence, puisque du coup, on voit aussi que ça peut être intéressant que d'avoir un sol vivant. Autour de ça, on a fait un projet qui était d'essayer d'écouter, de se dire comment on peut savoir s'il y a des insectes dans une terre. Alors bon, puisqu'on est quand même dans des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut l'entendre ? Ben non, on n'a pas réussi à l'entendre. C'est trop probablement trop petit. Et on a quand même réussi à entendre les vers de terre. Ça fait du bruit dans le sol. Donc on a, voilà, il y a eu un développement d'une interface audio pour aller chercher ces microsons. Et on vous invite à découvrir ces sonorités dans une installation à La Chapelle.
Et donc du coup, je passe la parole à Carole. Alors là, on retrouve l'éducation populaire, hein, Eva Leco, voilà, tout de suite. Hein, donc présidente de l'association Eva Leco.
Dire 2 choses par rapport à des mots prononcés par Bruno sur la question du sensible. Et puis, il y en a pas mal ici qui me connaissent, d'autres qui vont me découvrir. C'est ce qu'on aime bien pratiquer ici et depuis de très longues années, c'est le lombricompostage. Pour parler du sensible, donc ok, l'information, ok, la pratique et en particulier professionnelle, mais ce qu'a apporté aussi Biotopie, c'est cette approche-là. Alors, c'est quoi le sensible ? C'est de renouer avec le vivant, mais comment ? C'est en invitant à toucher, en invitant à regarder, en invitant à sentir, voir comment effectivement est le compost ou l'ombricompost produit, comment est cette terre, elle est grumeleuse, elle est humide, elle est aérée, Donc en fait, c'est cette invitation-là que l'on fait aussi, c'est le sol vivant, mais nous aussi, soyons vivants et relions-nous à ce vivant. Et la deuxième chose, donc on parle beaucoup d'agroécologie, de sol vivant, et puis pendant ce temps-là, tous ceux qui produisent de la pelouse synthétique peuvent se réjouir parce que c'est en pleine explosion. Et beaucoup de particuliers aujourd'hui pensent qu'ils vont résoudre ce problème de manque d'eau en mettant du gazon synthétique à la place justement de ce sol. Et puis pas loin de chez nous, on a quand même le plus grand golfe d'Europe, totalement en gazon synthétique et ultra connecté pour favoriser l'expérience client. Voilà. Donc la lutte, elle est permanente et si on pense que, ok, on tend vers un mieux, ben non, pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses. Juste pour terminer, parce que le sol vivant, effectivement, il y a la faune du sol, mais il y a aussi la faune du tiers-lieu qui a largement permis à cette action de se réaliser. Voilà. Donc c'était juste voilà, les remercier également.
En termes de règles, ce qu'on avait proposé, c'est chaque personne, chaque intervenant va intervenir 10 minutes. Vous gardez vos questions en tête, donc ça fera 20 minutes d'intervention et puis ensuite discussion avec la salle. Donc la proposition, c'est que peut-être Christian Carnavalet commence le bal et puis ensuite on enchaîne par Bruno Campana.
Eh bien bonjour à tous. Donc on me demande de parler de la microbiologie des sols et de voir comment on peut l'alimenter, la faire durer dans un sol ou la réintroduire. En 10 minutes, ça va être très très court, mais enfin on va rester, c'est pas possible. On va surtout essayer de voir un peu de quoi on parle. Donc qu'est-ce que la microbiologie ? On a aussi ici une exposition où on voit un peu la mésofaune, donc ce qui n'est pas micro. Même si c'est micro, on le voit quand même avec un microscope ou une binoculaire. Pour s'intéresser à la microbiologie des sols et à la rénovation, à la régénération des sols, on efface tout ce qu'on connaît et on passe à autre chose. On réinvente l'histoire. J'aime bien cette photo-là parce qu'on voit bien la roche-mère de laquelle tout est issu. Et là, simplement, la toute petite pellicule importante où tout se passe. La vie sur Terre dépend de ces 30 à 40 cm. Mais le plus important, c'est vraiment les êtres vivants qui s'y trouvent. Et ces êtres vivants sont assez nombreux. Donc, comme on n'avait pas de microscope depuis 200 ans, on a observé toute la mésofaune qu'on appelle, hein, qu'on va voir tout à l'heure. Le plus important, et par ordre vraiment d'importance, ce qu'on a découvert depuis les 50 dernières années, ce sont les bactéries, les champignons et les vers de terre. Mais ça, on le savait déjà depuis 1865, les vers de terre, c'était assez connu. Mais bactéries et champignons, le rôle de ça, on avait connu depuis Pasteur qu'il y avait des bactéries, des champignons microscopiques, hein, des choses qu'on ne pouvait pas voir. Mais on a découvert leur rôle depuis ce dernier demi-siècle. Donc, comme on dit toujours, quand je suis sorti de l'école, on savait qu'il y avait cette soupe microbienne, mais on ne connaissait pas le détail. Ce détail, on l'a découvert depuis les 50 dernières années. Donc, j'ai dû faire ma formation continue depuis l'âge de 20 ans pour apprendre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 15 ans, pour écrire des livres, pour raconter tout ça, pour le divulguer. Et encore aujourd'hui, je passe mon temps à lire et à regarder tout ce qui se passe. Bactéries, champignons, on voit à peu près le nombre qu'il peut y avoir. On parle par milliards ou par millions par rapport à la mésofaune, où on va parler à l'unité, à centaines d'unités. Donc on voit vraiment l'importance de toutes ces petites bêtes, avec des choses surprenantes comme les algues ou les virus qui sont là, même les micro-algues terrestres sont dans le sol, avec leur petite capacité à faire la photosynthèse, elles sont là. Donc ces fameux protozoaires qui sont aussi microscopiques, les bactéries, les micro-algues terrestres qu'on peut voir aussi, donc elles ont une couleur verte parce que forcément elles font de la photosynthèse, elles ont cette particularité. Et ce qu'on appelle les champignons, pour moi, un agronome, et pour tous les agronomes du monde et les paysans, les champignons, c'est ça. Ce sont les mycéliums. Ce n'est pas les bolets, les cèpes, les trompettes de la mort, qui sont que les fructifications qu'on voit, mais c'est le réseau de mycéliums qu'il y a dans le sol. C'est ça l'important. Donc, pourquoi tout ça est important ? On a donc la possibilité d'avoir, grâce à ces mycéliums, une exploration exponentielle du sol pour soutirer les minéraux, l'eau, les petites molécules d'eau, pour que la plante puisse vivre. L'autre capacité des champignons, c'est vraiment de créer une structure. Tous ces mycéliums, ces milliards de kilomètres de champignons qui parcourent le sol, quand ils se touchent, ne se superposent pas comme des spaghettis. Ils se soudent entre eux et ils ont la capacité, ils se perforent et hop, ils se soudent. Donc les réseaux, c'est pour ça qu'on vous dit que les forêts se parlent, parce qu'il y a un échange de minéraux, un échange d'eau, un échange de molécules qui passent à l'intérieur. Et en même temps, ce fameux filet, ces soudures qui se font là, tous les micromètres font un filet extrêmement dense qui donne la structure du sol et sa solidité. Donc on n'a pas d'érosion quand on a des champignons dans un sol. Hein. Quelle que soit la pente, il va résister. Voilà, donc le groupe après, celui qu'on voit un peu aujourd'hui, là, celui dans les salles d'exposition, c'est la mésofaune, donc la taille au-dessus. Quelques microns, quelques millimètres, demi-millimètres. Donc on a des protozoaires, les plus gros, des nématodes qui sont des tout petits vers de 2, 3, 4 mm de longueur. Les vers de terre, ce qu'on appelle les acariens, les colamboles, les larves d'insectes, les myriapodes, tous ces petits insectes, toutes ces petites bêtes qu'on voit courir sur le sol. Donc tout ça participe forcément depuis 150 ans, 200 ans, c'est ce qu'on a vu avec les loupes. Donc c'est ce qu'on connaît le mieux, ça a été décrit d'une manière extraordinaire. Voilà, donc les nématodes, tout petits vers, les acariens, les colamboles, qui ont une particularité un peu curieuse. Ils sont, en plus, ils ont c'est des pois sauteurs. Ils sautent pour se déplacer. Donc ça, ça fait partie de la mésofaune. Les vers de terre. Donc les vers de terre importants, les tout petits, les vers épigés, que quand vous avez des déchets, que vous les mettez dans votre jardin, vous avez plein de tout petits vers de terre. C'est une catégorie qui se développe. On a peut-être 4000 espèces de vers de terre en France, mais il n'y aura que certaines espèces, des vers épigés, qui vont se faire. Les lombrics sont ceux qui vont aller en profondeur, remonter, c'est ceux dont on parle tout le temps. Mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Il faut les réintroduire par la matière organique, on va voir comment. Le rôle des bactéries, c'est fameux, c'est ce qu'on appelle le gel microbien. Une bactérie, c'est comme un ballon qu'on gonfle, et elle va émettre à l'extérieur ses enzymes digestifs. Les champignons qui arrivent derrière, avec leur mycélium, vont venir enserrer tout ça. Et en plus, quand on va avoir des soudures, des anastomoses, donc la terre est vraiment tenue. Il n'y a plus d'érosion possible dans un sol organique. Ce qu'il y a de plus important aussi dans le sol, c'est la plante. La plante qui agit sur le sol, qui agit sur la microfaune, la microflore, par l'intermédiaire de ses racines. Jusqu'à 40% de l'activité de la photosynthèse, donc tout ce que la plante va élaborer, elle le redescend au niveau des racines pour faire de l'élevage. Elle élève les bactéries, elle élève les champignons, elle donne à manger à ses mycorhizes, elle donne à manger à ses bactéries pour que toute cette, y en ait une densité importante autour des radicelles pour qu'elles fassent leur boulot de décomposition et que la plante puisse aller piocher tout ce qu'elle a besoin pour manger. Donc depuis 400 millions d'années, les plantes ont appris à élever des bactéries, des champignons, comme l'agriculteur doit le faire maintenant, pour manger. Donc un sol où on a détruit les bactéries, les champignons par des apports chimiques, la plante ne sait plus manger. Elle ne mangera que ce que l'homme va lui donner. Tandis que là, elle va manger ce qui est contenu dans le sol. Un paysan aujourd'hui doit se transformer en éleveur de bactéries et de champignons et avoir cette mentalité de, comme les poules, poup, 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 je te donne à manger, on met de la matière organique, on met du fumier, on met tout ce qu'on va avoir là, pour justement apporter du carbone, un peu d'azote et à toutes ces catégories de bestioles pour qu'elles se développent. Ce sont elles la clé du succès de la croissance des plantes en agriculture. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elles améliorent la structure du sol, donc avec ces mycéliums, avec en plus toutes les actions chimiques. Dans le sol, tout est chimique, naturel, pas de la chimie artificielle. Hein. Donc, par la structure du sol, les micro-organismes la fabriquent. L'eau pénètre, l'air pénètre, les racines pénètrent facilement, le sol est maintenu, il n'y a plus d'érosion ni aérienne ni hydrique. Elle nourrit les plantes par la décomposition. Et voilà. Donc, comment faire ? Apporter du carbone dans le sol, le fumier traditionnel, hein. Mais comme il n'est pas non plus beaucoup, il n'y en a pas énormément, donc il va bien falloir trouver autre chose. Ceux qui peuvent avoir du fumier, tant mieux, mais sinon, l'agriculture a inventé bien d'autres techniques. Il faut déjà laisser tous les résidus. On a inventé maintenant depuis une trentaine d'années, il y a encore plus que ça, quand je dis ça fait presque un siècle aux États-Unis qu'on a inventé ça, ou au Brésil, on a mis des cultures spécifiques. On va mettre pendant 3-4 mois un mélange de graines qui va nous donner jusqu'à 30-40 tonnes de matière organique fraîche qu'on va foutre sur le sol pour alimenter tout ça. On ne va pas les broyer parce que ça va nous poser un problème pour semer derrière. Mais voilà, donc les nouvelles manières de faire aujourd'hui, quand on n'a pas de fumier, on résout ça comme ça, ce qu'on appelle les engrais verts aussi, hein. Les rotations avec de la luzerne et toutes ces choses. Mais enfin, on fait aussi des mélanges spéciaux. Donc ça nous donne une esthétique complètement différente. La nouvelle agriculture est comme ça, un fatras innommable dans lequel on a semé et les petites graines commencent à germer. C'est comme ça que ça marche maintenant. Ça se développe de plus en plus. L'avenir de l'agriculture, c'est ça. Au milieu de tout ce fatras, la renaissance. Les plantes peuvent pousser et la matière organique va se décomposer petit à petit. Et comme ça, on vise le long terme. C'est ça, le durable. Donc, on pratique ça chaque année. On va avoir un taux de matière organique dans le sol qui va augmenter et avec tous les bienfaits que ça fait. Donc, les nouveaux outils, on a semé notre champ. On a le tracteur devant qui couche tout ça. Pourquoi le coucher ? Parce que derrière, on va semer directement. Donc, si on avait broyé, on aurait comme un mikado, là, et le semoir ne peut pas passer. Donc, ça bloque tout. Donc, le fait de coucher, on vient semer dans le même sens où on a couché les plantes, et là, les semoirs passent. Ce qu'on a découvert le plus extraordinaire, c'est que la mésofaune était intéressante, elle découpe tout ça, ça permet l'attaque microbienne. Mais les champignons et les bactéries ne font pas que alimenter les plantes ou construire le sol. Ils aident la plante à se protéger. Ils développent leur capacité immunitaire d'une manière naturelle, en détruisant les, en faisant donc un équilibre des espèces de bactéries ou de champignons qui sont dans le sol. Dans un sol, c'est la guerre complète. Hein. Les bactéries, par 4000 espèces, là, sont là pour bouffer. Donc, elles se tuent. C'est comme un buffet là, où tout le monde se jette. Pousse-toi que je m'y mette. Donc, on envoie des poisons. Les autres font des contre-poisons, donc des antibiotiques. Les autres envoient des... Donc, ces fameux antibiotiques qu'on utilise proviennent tous des bactéries, des champignons du sol. Hein. Les plantes en profitent. Hein. À partir du moment où ces plantes cultivent les bactéries au niveau de leurs racines, cette guerre microbiologique, bactérienne qui se fait, aboutit à un équilibre, donc à une absence de maladie. Il n'y a pas une bactérie qui va pouvoir dominer, ni un champignon néfaste qui va dominer. S'il y en a un qui domine, c'est qu'il y a eu un problème. Une pluie diluvienne pendant 15 jours qui a fait que tout est inondé, on a modifié les conditions du sol. Donc là, se développera dans ces conditions-là des bactéries ou des champignons pathogènes. Mais c'est exceptionnel. Lorsque ça va revenir à l'air libre, que la pluie va se résorber, on va retrouver un équilibre. Donc c'est surtout ça l'important, c'est que plus on aura de matière organique dans le sol, plus on aura une activité microbiologique, plus les plantes se porteront bien. Il y aura une absence de maladie absolument au niveau du sol de 99,9%. Il ne restera plus que quelques attaques en aérien, mais que la plante aura appris, grâce à tous ces micro-organismes, à mieux digérer. Un sol se construit, il va falloir que maintenant on se mette ça dans la tête. On le sait depuis longtemps. Vous voyez déjà, il y a 1892... Les paysans, les jardiniers disaient « le sol se construit et le sol vaut ce que vaut l'homme. Si l'homme est intelligent, le sol sera parfait. » Donc on est en train de revenir à cette intelligence par la compréhension des micro-organismes, de l'importance des matières organiques. Voilà. Plus de chimie, mais beaucoup de matières organiques. Voilà, donc ça maintenant c'était un peu la base. On pourrait après ça développer tout un tas de trucs pendant des heures. On va laisser la place à l'intervenant suivant qui va nous décrire quelques exemples, comment il a fait dans les champs pour arriver à ça. Et puis après ça, je vous dirai tout ça.
Merci Christian, parce que tout ça, cette partie descriptive et tout ça, elle est très intéressante et il faut l'avoir intégrée pour mieux comprendre et mieux vivre après ce qui se passe dans le sol. En fait, il faut essayer d'avoir... et c'est toute la difficulté de la vie de paysan aujourd'hui, quoi, ou d'agriculteur, c'est de se reconnecter au sensible, en fait. On a mis trop d'énergie yang dans l'agriculture, on a mis trop de choses masculines dans l'agriculture, on a été trop perforateur, trop pénétrateur, trop défonceur, trop exploseur, comme les hommes savent le faire, les mâles savent le faire très bien dans l'espèce humaine. Et maintenant, il faut réintégrer du yin. Mais il en faut beaucoup, parce qu'on a fait beaucoup, on a mis beaucoup de yang, mais beaucoup, beaucoup. Et donc, il faut revenir à une approche sensible du sol. Et une approche sensible, c'est une approche évidemment en lien avec le vivant. Pas du tout ce qui est l'approche yang, qui est plutôt une approche mortifère, on va dire. Là, on a été très mortifère dans notre agriculture, et je pense qu'on l'a été depuis la période... les premiers développements agronomiques dans les premières vallées fertiles d'Orient, quoi. À partir du moment où on a commencé à vouloir contrôler le végétal, contrôler la croissance du végétal pour mettre le végétal à notre service. On a rendu le végétal esclave de l'humain et on a transformé le végétal en quelque chose qui produit de quoi nous nourrir parce qu'on en avait marre d'aller cueillir des baies à droite à gauche et qu'on voulait avoir quelque chose de plus stable et de plus facile. Donc là, on revient à la complexité, on revient à la difficulté parce qu'en effet, c'est plus difficile et c'est plus complexe parce qu'il faut comprendre ce que vient de vous décrire Christian. C'est-à-dire que le sol, ce n'est pas juste un matériau. Le sol, c'est un organisme. Quand on considère les choses comme des organismes et plus comme des matériaux, on voit et on fait et on intervient de façon complètement différente. Parce qu'un organisme, on le voit bien, nous, on peut... quand on touche notre organisme, ça nous perturbe, ça nous influence, ça peut même nous blesser, quoi. Donc avec le sol, c'est exactement la même chose. Il y a des actions qu'on fait sur le sol ou dans le sol qui sont très destructrices. Le système qui fonctionne le mieux et qui doit être notre modèle, et ça, c'est les permaculteurs les premiers qui ont décidé que c'était l'inspiration, c'est un système forestier. Dans les systèmes forestiers, l'humain n'intervient pas du tout. Et c'est dans ces systèmes où l'humain n'intervient pas du tout qu'on produit les plus gros végétaux qu'on a jamais produits en agriculture. Voilà, c'est, on produit des forêts de cèdres, de chênes et des végétaux énormes. Et on ne fait, nous-mêmes, les êtres humains, on ne fait rien. Maintenant, il y a beaucoup de forêts qui sont gérées par l'humain, mais les forêts primaires, qui sont des forêts où l'humain n'est jamais intervenu, c'est les endroits où, où se produisent la plus grosse biomasse végétale. On n'a jamais pu faire mieux qu'une forêt. Tous les agriculteurs, tous les agronomes du monde n'ont jamais pu faire mieux qu'une forêt primaire. Donc c'est notre modèle. Et qu'est-ce qui se passe dans une forêt primaire ? Eh bien, c'est toute la magie du lien entre la lumière et l'obscurité. Parce qu'il faut bien que vous compreniez, il faut bien que l'on comprenne tous, qu'il y a le monde de la lumière, c'est-à-dire celui qui est au-dessus du sol, celui dans lequel nous vivons nous-mêmes, et celui de l'obscurité, qui est celui qui est dans le sol. C'est le sol lui-même, sa surface et évidemment toute sa profondeur. On est dans un monde de l'obscurité. Le vivant du sol n'aime pas la lumière. En général, il est photosensible. C'est-à-dire que la lumière le détruit. À chaque fois qu'on met un sol à nu, on met beaucoup de choses à la lumière, et quand on met des choses à la lumière par rapport au sol, on les détruit. Et il y a toute une partie du sol qui est déjà détruite par la lumière elle-même. Et le végétal, donc pour revenir à la forêt, le végétal, lui, son job et sa magie, c'est qu'il fait le lien entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres, le monde de l'obscurité. Il a cette capacité que nous, on n'a pas du tout, mais lui, il a cette capacité, et c'est cette magie biochimique dont a parlé Christian, c'est-à-dire en effet, les végétaux photosynthèsent, ils produisent des sucres, avec ces sucres, ils vont nourrir des bactéries qui, elles, sont sous le sol, qui ne sont pas capables de le faire parce qu'elles n'ont pas la possibilité de photosynthétiser, des sucres, des champignons, et c'est comme ça que la vie du sol avance. Et c'est comme ça qu'une forêt se développe. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un arbre, l'arbre lui-même, crée son propre sol. L'arbre, à chaque fois qu'il produit de la biomasse, quand il produit des feuilles, quand il produit des branches, quand il produit des racines, à un moment ou à un autre, il va les abandonner. Ils vont tomber ou ils vont mourir. C'est les radicelles qui meurent. Et cette biomasse qu'il abandonne, il ne l'abandonne pas pour rien. Elle n'est pas perdue. Elle est là parce qu'elle va se déposer sur le sol, elle va nourrir la vie du sol. Et c'est comme ça que l'arbre crée son sol. Et c'est comme ça que les forêts se développent. Et alors évidemment, ce qui est important pour la vie du sol, c'est deux choses. Un sol qui va bien, c'est le gîte et le couvert. Voilà, ceux qui marchent un peu, on comprend bien ça. C'est le gîte et le couvert de la vie du sol. Donc, quand on touche le sol, on peut détruire la maison. Et c'est ce qu'on fait quand on laboure, c'est ce qu'on fait quand on travaille le sol. On explose tous les réseaux mycorhiziens que vous a montré Christian, qui sont très, très importants. Il faut savoir qu'un réseau mycorhizien peut aller à des distances très impressionnantes. Il y a toujours cet exemple de l'expérience soviétique, je vais vous le donner, parce qu'on essayait de comprendre comment circulait le phosphore dans le sol. Et du coup, on a les soviétiques, à la grande époque soviétique, ont empoisonné des souris avec des matières radioactives, et ils ont laissé le corps de ces souris se décomposer, et ils ont tracé les matières radioactives dans le sol pour savoir jusqu'où le réseau mycorhizien pouvait amener le phosphore qu'il allait récupérer dans la décomposition de cette souris. Et quand on se décompose dans un milieu naturel, les champignons font ce job-là, ils viennent récupérer le phosphore, qui est une matière rare et précieuse, et ils le redistribuent dans l'environnement. Eh bien, on a retrouvé des traces de ce phosphore à 1 km de la souris, pour vous donner une idée de l'importance et de l'ampleur du réseau mycorhizien. Donc Internet, nous, on n'a rien inventé. Les végétaux et les mycorhizes, ça fait bien longtemps qu'ils travaillent sur ces réseaux-là. Donc moi, je suis responsable agro et sourcing durable pour le groupe MUL. Le groupe MUL, c'est une famille d'agriculteurs industriels des plantes aromatiques et médicinales. Et on produit des plantes à destination de l'industrie, de la parfumerie et des arômes. Et donc là, dernièrement, on a eu à intervenir. On a eu la possibilité de planter des lavandes sur le plateau de Cossol. C'est une prairie où la matière organique s'est accumulée pendant presque 60 ans. Et nous, on a eu à intervenir là-dedans pour planter des lavandes. Donc, on avait plusieurs solutions. La solution classique, c'est de tout labourer, exploser la prairie complètement et faire des raies bien propres, bien dans le sens de la pente nord-sud à la traditionnelle, quoi, et planter nos lavandes là-dedans. Et du coup, exploser une prairie qui est là depuis 60 ans. Et l'autre solution, c'était une des autres solutions, parce qu'il y en a eu pas mal, mais celle, je vous la fais courte, celle qu'on a fini par choisir, c'est de dire on va pas exploser la prairie. On va d'abord pas travailler non plus dans le sens de la pente. Pourquoi ? Parce qu'on évite ainsi l'érosion. Prendre des courbes de niveau, donc des techniques de permaculteurs, en fait. Et on a juste ouvert avec la sous-soleuse une bande de 15 cm dans le sol. On a dégagé autour à peu près 40 à 50 cm. On a enlevé l'herbe qui poussait là. Et on a planté nos lavandes dans ces bandes-là. Et ces bandes-là, on en a fait une tous les 2,20 m. Et entre les bandes, donc, on a laissé la prairie telle qu'elle était. Pour l'instant, ça se passe très bien. Les lavandes sont en troisième année, ça croît très bien. On est très contents. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se contente juste de tondre la prairie. Un entre-rang sur deux, on le tond. L'autre, on le laisse pousser pour laisser la prairie comme elle était déjà à l'époque. Donc ça, c'est des chiffres qu'on partage avec le groupe MUL parce que nous, on suit l'évolution de nos sols et on veut. Notre objectif, c'est d'aggrader nos sols et de. Parce qu'il faut savoir aussi que le sol est un capteur de carbone. On capture du carbone dans le sol. Et nous, ça nous intéresse de capturer du carbone au niveau de l'agro parce que l'industrie de la parfumerie et des arômes est un gros émetteur de carbone parce qu'on distille, on brûle du gaz pour distiller et tout ça. On essaye. Tant bien que mal de compenser nos émissions de carbone industriel par des captures de carbone agricoles. Je ne sais pas si je suis clair. Donc du coup, ces chiffres, on en a besoin pour montrer et pour se dire ben, combien on a émis, combien on a capturé, quel est notre bilan. Bref, la prairie, après avoir ouvert pour mettre les lavandes, on était à 9%, on était pareil avant. On n'a pas dégradé, c'est ça que je veux vous montrer. Et on est arrivé à faire pousser des lavandes dans un sol sans l'exploser. Donc on peut cultiver sans exploser et sans détruire les choses sur lesquelles on arrive. Donc il y a la dégradation, et nous on est dans des processus d'aggradation. On améliore, on aggrade. La difficulté du compost, c'est que la compost a un bilan carbone pourri. Amener la matière végétale à l'endroit où elle composte, donc ça consomme du carbone. Le compost lui-même produit du carbone. Ensuite, il faut aller prendre le compost et l'amener sur la parcelle. Ensuite, il faut l'épandre. Tout ça, c'est des opérations qui produisent du carbone, qui émettent du carbone. Donc en fait, le bilan carbone du compost est pourri. Donc on peut le faire une fois, deux fois, mais on peut pas. Si on fait tout le temps, on a un bilan carbone de merde à la fin. La parcelle a un bilan carbone pourri. On capture du carbone, mais on en a émis tellement pour amener le compost qu'on a un bilan carbone pourri. Alors qu'en faisant pousser de la biomasse, la meilleure biomasse qu'on puisse amener sur un sol, c'est la biomasse qu'on va faire pousser sur ce sol.
Merci, on a juste cette contrainte effectivement de terminer à midi, mais c'était passionnant. Donc la proposition, c'est que maintenant on va faire circuler le micro.
Vous avez dit, Christian, que vous avez dit plusieurs fois dans votre présentation qu'on va de plus en plus vers une forme d'agriculture comme vous l'avez présentée. Mais j'aimerais savoir dans quelle mesure, parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a un grand mouvement d'industrialisation à outrance qui ne cesse pas. Et je voulais savoir si vous aviez une idée de la place que ça prend aujourd'hui, ce développement-là.
Oui, ce développement, moi, j'en ai fait la conclusion de mes livres et j'essaye de choquer tout le monde en disant que plus l'agriculture sera intensive, plus les exploitations sont grosses, plus ils vont arriver à faire ce genre d'agriculture. Puisque quand vous avez 5000 hectares, 10 000 hectares, ou même en France, des exploitations de 200 à 500 hectares, ils se sont rendus compte, tous ces braves paysans, que labourer, acheter des engrais, ne pas profiter de la microbiologie des sols, donc induisait des maladies, il faut traiter. Donc aujourd'hui, on a inventé, enfin aujourd'hui, il y a déjà un siècle maintenant, et ça revient à la mode, on a inventé ce qu'on appelle le semi-direct. Donc ce fameux semi-direct, c'est ce que vous avez vu avec ces tracteurs et ces mélanges herbacés qu'on a mis pour avoir beaucoup de matière organique qu'on couche et on sème derrière. On économise entre 250 et 300 euros à l'hectare. Ailleurs, c'est 300 dollars d'économie d'heures de gasoil, enfin d'heures de travail, de gasoil, de produits de traitement, d'engrais. Donc les grandes exploitations se ruent sur ça pour des questions économiques. Et donc plus les exploitants, comme ces grands agriculteurs cultivent 90% des surfaces dans le monde, même s'ils ne représentent que 1 à 2% des agriculteurs, ils sont en train de se ruer là-dessus. Quand vous avez 30 000 hectares, 3 fois 3, 9, ça fait 9 millions d'économies qui restent dans la trésorerie. Donc ils se ruent là-dessus et par contagion, ça se développe énormément. Donc moi, j'ai énormément d'espoir dans ce changement-là, pour des questions économiques, pas de philosophie. La philosophie, elle viendra après.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre point de vue sur la formation des agriculteurs, un peu de l'ancienne génération, qui ne travaillaient pas encore vraiment comme ça ? Moi, j'ai juste un exemple. On a visité une exploitation d'un producteur de maraîcher dans la plaine du Var récemment. Et en fait, il travaille. Alors lui, déjà, il a fait une partie du chemin parce qu'il travaille sans aucun produit chimique. Il a arrêté parce que déjà, ça lui, il s'est aperçu que c'était pas très utile et que ça lui coûtait cher. Et en fait, alors, mais par contre, son terrain, ça m'a surpris. Il fait des grandes lignes, quoi. Et c'est encore, il retourne la terre quand même. Il laboure encore et on voit que la terre, elle est quand même vraiment sèche. Enfin, elle a pas l'air très vivante. Et du coup, est-ce que cette génération, parce qu'il lui, il va bientôt partir en retraite, vous pensez que ça vaut le coup d'investir, enfin, pour qu'il se forme ou qu'il se, donc, voilà, ceux qui ont encore 10 ans à travailler ou 5 ans, quel est votre point de vue par rapport à ça?
Non, au niveau de la formation, quand on a effectivement 60 ans, ça va être compliqué d'aller se former. On peut acheter des bouquins parce que c'est plutôt la génération qui va lire du papier. Tout ce que je décris là maintenant, quand même, commence à rentrer dans l'enseignement. Même si ce n'est pas encore très pratique, la génération qui arrive est partie là-dedans. Les chambres d'agriculture les obligent à aller faire une formation. Donc il y a quand même de l'espoir. Mais effectivement, il y a un âge où on n'a plus envie, quoi, c'est sûr.
Puisqu'on parle d'apprentissage, moi je voulais demander qu'est-ce que vous pensez de... l'enseignement dans les lycées, les grandes écoles. En fait, là, récemment, il y a eu des étudiants de l'AgroParisTech qui ont fait un discours lors de remise des diplômes en appelant leurs camarades à tourner le dos aux enseignements de la grande école pour aller vers un autre monde. Enfin, j'imagine qu'ils faisaient allusion à ce genre de débat. Je voulais savoir votre opinion et puis quelles sont les possibilités que... vos savoirs intègrent l'institution, quoi.
Moi, j'ai quitté AgriBio 06, l'association des paysans bio, parce que, pour raison philosophique, je leur dis, vous voulez philosopher, moi, je m'intéresse à la pratique. Aujourd'hui, le langage de toute cette nouvelle génération d'agronomes, c'est de faire de la philosophie. Nous, paysans, on ne va pas sauver le monde. Or, c'est le langage que la nouvelle génération veut faire passer. Mais moi, je suis beaucoup plus axé sur la pratique quotidienne. Moi, quand je mets du carbone dans le sol, c'est pas pour sauver la planète, c'est pour donner à manger à mes micro-organismes et avoir de bonnes récoltes. Or, les permaculteurs sauvent le monde. Le maraîcher doit travailler son sol, les carottes, elles doivent pénétrer dans un sol. On va pas attendre que les vers de terre aient fait le boulot. Donc, je suis bien obligé de le travailler, mon sol, parce que j'ai besoin d'oxygène dans le sol. J'ai besoin, moi, mes radicelles, c'est pas des marteaux-piqueurs, donc il faut que ça descende tout de suite. La durée de vie de mes plantes, c'est pas la durée d'un arbre, c'est de quelques semaines à quelques mois. Donc, il faut qu'elles s'installent tout de suite, parce que dans 6 mois, mes tomates sont parties. Dans 2 mois, mes tomates, mes salades sont parties. En 1 mois, les radis sont partis. Donc, il faut qu'ils aient tout de suite ce qu'il faut. Donc, vous entendrez deux langages. Et moi, je m'inscris en faux contre... Enfin, pas en faux, mais j'aime bien m'opposer à ça parce que sont devenus extrêmement arrogants dans cette philosophie. Ils sauvent le monde et ça, je n'accepte pas.
AgroParisTech. Non, c'est bien qu'il y ait des écoles d'ingénieurs comme ça. J'ai pas entendu qu'ils se plaignaient trop de leur école. C'était plutôt envers l'agro-industrie et l'agrochimie. Bayer, Monsanto, BASF, enfin, et compagnie, quoi. Que ces ingénieurs-là, agro... en sortie d'école, commence à dire « nous, on ne veut plus travailler pour ces boîtes-là », moi, ça me fait plutôt plaisir.
Depuis des années, donc, ils ont senti, tous ces industriels, que le monde changeait. Donc, avec leur trésorerie, ils ont racheté toutes les entreprises qui fabriquent des produits bio. Et quand vous achetez pour des agriculteurs des insectes pour mettre dans les champs, des autres qu'on va dans la jardinerie, qu'on achète tous ces petits produits qui sont labellisés et utilisables en agriculture biologique, on leur donne de l'argent. Et aujourd'hui, quoi que vous fassiez, quoi que je fasse, on achète et on engraisse toujours les mêmes industriels.
Continuez d'aller acheter à la jardinerie un extrait fermenté d'ortie qu'on peut produire lui-même, soi-même dans son jardin. Et après, aller acheter des insectes vivants pour régler des problèmes d'autres insectes vivants. Les solutions, elles peuvent venir de nous-mêmes. Toujours la même question à se poser avant de consommer. Est-ce que ce que j'achète là, je ne peux pas le produire moi-même ou le trouver de façon beaucoup plus proche de moi, autour de moi. Là, il y a du thé de lombricompost qui fait exactement bien le job. Et il est produit ici.
Si vous faites une agriculture basée sur la microbiologie des sols, vous n'aurez besoin de rien, que de matière organique. Et Monsanto, vous le laissez de côté, vous ne l'engraisserez jamais.
Merci beaucoup, c'est super pour finir. Merci, donc, merci à Bruno, merci à Christian. Et puis, on vous invite. Alors, c'est modeste, hein, mais il y a des jus de fruits et quelques petites choses à grignoter. Sinon, vous avez des crêpes aussi pour ceux qui ont beaucoup plus faim.
Alors, Monsieur Bourly.
Méli-mélo, ça s'appelle. C'est sympa. Il y a 7-8 accordéons. Il y a 2 flûtes à bec, une traversière, une contrebasse, un violon. Puis un mec qui joue avec des cuillères en bois.
Des cuillères en bois ?
Ouais, c'est pas le mieux, mais bon. Attends, j'ai cru que c'était un gosse qui tapait sur un truc pour faire chier les musicos. Mais bon, je suis pas champion du monde aussi.
Ah, mais ils veulent faire danser les gens, j'ai l'impression.
Ouais, on ne compte pas faire moins.
Bah si, ils regardent dans ta direction, là. Pourquoi ils s'approchent ?
Ouais, ils nous ont reconnus, c'est pour ça.
Ben, je vais m'approcher, on va écouter.
Oui, allez, approche-toi, on va écouter, puis les gens se mettent en position, donc ça va être un atelier de danse traditionnelle.
Il a acheté 2 t-shirts.
Qui ?
Bruno.
7 t-shirts vendus pour 1 fakir. Ah, bravo, hein, la littérature.
Oui, mais François, écrit tes livres sur des t-shirts.
On ne mettra que les têtes de chapitre et tout. Je vous écris du front.
Et non, ça ne rentrait pas le reste.
Oui, tant pis. Hein.
Allez, je m'approche. Écoutez, on est de nouveau en direct après cette pause musicale.
Ouais, après cette pause musicale, après cette petite, alors je sais pas, conférence, prise de parole avec des échanges, on va essayer d'aller plus loin. Alors Christian Carnavalet n'était pas dispo, il avait un emploi du temps un peu chargé. Donc on se retrouve avec Bruno Campana. Alors Bruno Campana, moi, il se trouve que on se retrouve parce qu'on s'est croisés, je dirais, il y a une quinzaine d'années, peut-être même davantage. Et donc j'ai eu le plaisir ce matin de voir arriver un visage que je connaissais, et donc ensuite on l'a écouté. Donc toi, tu es venu parler, ce qui m'a intéressé dans le début de ton intervention, c'est une volonté de réintégration du féminin associé au vivant, alors que le masculin est assez associé à l'idée de pénétration, de violence, de dureté. Et pourquoi tu mets ça en avant quand tu commences tes prises de parole, en fait ?
En fait, c'est pas vraiment ça que je mets en avant. C'est parce que c'est pas une question de genre ou de sexe, c'est une question d'énergie. C'est pour ça que je préfère utiliser les termes chinois du yin et du yang, parce que pour moi, c'est plus... Il y a des hommes qui sont très yin et des femmes qui sont très yang. C'est pas en lien avec le sexe ou avec le genre. Et les énergies yang, ce sont des énergies comme ça, qui sont... des énergies aussi intéressantes, très dynamiques. C'est le mouvement, c'est l'avancée, mais c'est aussi toutes ces énergies de destruction, de pénétration, d'action. Et c'est souvent ces énergies-là qu'on a. Enfin, c'est depuis l'apparition de l'agriculture, c'est ce genre d'énergie-là qu'on a mis en œuvre. Et voilà. Et je pense que il est temps que l'agriculture revienne à des pratiques qui sont énergétiquement plus yin que les pratiques qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Et l'énergie yin, c'est une énergie de préservation, c'est une énergie du non-agir, c'est le non-agir justement, c'est toutes ces énergies-là du laisser-faire. Et on voit très bien que c'est beaucoup plus efficace dans la nature le laisser-faire que l'action humaine. Dès qu'on agit, on a tendance à défaire des équilibres, à déplacer des choses, à créer des mouvements qui sont perturbateurs pour l'environnement, quoi.
Donc une agriculture plus douce, en fait.
Exactement, une agriculture plus douce, plus in, plus sensible.
Comment tu présenterais ton travail? C'est quoi ta fonction, en fait? Comment tu nous définirais ça pour l'auditeur coincé dans les embouteillages?
Ma fonction, moi, je suis le titre, on va dire, c'est responsable agronomique et sourcing durable dans une société qui fait... qui produit des plantes aromatiques, des extraits aromatiques pour l'industrie de la parfumerie et des aromatiques. Et moi, mon boulot dans cette... Là, c'est de produire des végétaux pour faire des extraits. Du coup, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des végétaux en volume, mais surtout d'avoir des végétaux en qualité. Un parfumeur, un aromaticien, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une rose qui a un parfum vraiment inspirant pour lui ou qui lui parle justement sensiblement. Un aromaticien, c'est la même chose, il veut avoir quelque chose qui a un goût qui soit vraiment le goût qu'il recherche ou un goût le plus proche possible pour lui de ce que peut être le produit tel qu'il est dans la nature. Et on se rend compte en fait que le sensible est en lien avec le sensible, et donc l'olfactif, le gustatif, c'est des choses qu'on... Et les qualités des végétaux, olfactives et gustatives, on les développe en ayant des pratiques agricoles qui sont plus en lien avec le vivant, plus en lien avec le sensible. Autrement dit, plus on a des pratiques agricoles douces, et plus on a des végétaux de qualité en termes de organoleptiques et en l'occurrence olfactives. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de redécouvrir. Et du coup, maintenant, l'important, c'est pas de produire des tonnes de roses, c'est de produire des roses qui sentent vraiment bon, qui ont vraiment une qualité olfactive intéressante.
La douceur donne du goût. Alors.
Et la douceur donne du goût. La douceur, pourquoi ? Parce que quand on est en lien avec le vivant, on est en lien avec le complexe. Et le complexe, c'est quelque chose qui a tendance à, au niveau des végétaux en tout cas, à apporter cette, aussi bien d'ailleurs une qualité du végétal à mieux résister à certains agresseurs, parce qu'il est, mieux armé, il est plus vivant, et il est surtout mieux nourri, comme nous en fait. Quand on bouffe que des pâtes, on a tendance à souvent tomber malade et à pas être en forme. Et donc on a des plantes de meilleure qualité, en meilleure santé, et qui produisent des extraits, des composés qui sont aussi de meilleure qualité. Et ça, c'est quelque chose. Mais voilà, maintenant on en est. À un moment, on le pressentait. Maintenant, on en est sûr parce qu'on le vérifie scientifiquement, on va dire. Et donc moi, mon job, c'est ça, c'est d'amener cette sensibilité-là et d'avoir des pratiques agricoles qui sont en lien avec cette douceur pour avoir des végétaux de qualité, d'intérêt.
Tu parles aussi dans ton exposé, enfin dans les propos que tu as tenus, de la différence entre la lumière, donc ce qui est au-dessus du sol, et l'obscurité, ce qui est en dessous, et la lumière nécessaire quand on est là, c'est pas par hasard, et la lumière qui peut être nocive, entre guillemets, pour le... Oui, pour l'obscurité.
Oui, ça c'est quelque chose qu'il est important de comprendre quand on travaille avec le vivant du sol. C'est que le vivant du sol est un vivant des ténèbres. Et les lombriques sont photosensibles. Ils détestent être à la lumière, et la plupart des les bactéries sont très sensibles aux UV. Les UV détruisent les bactéries du sol. Donc il faut qu'on soit toujours en lien, enfin qu'on ait toujours ça à l'esprit. À chaque fois qu'on met le sol à la lumière, qu'on expose le sol à la lumière, on détruit énormément de vie du sol. C'est très impactant pour la vie du sol. Donc ce lien-là entre... Et c'est ce qui est très intéressant avec le végétal, c'est que le végétal, c'est ce que je disais tout à l'heure, le végétal fait le lien entre la lumière et les ténèbres, entre entre sa partie aérienne et sa partie souterraine. C'est vraiment l'élément vivant qui fait le lien entre la lumière et les ténèbres. C'est la lumière que captent les végétaux, qui sont capables de photosynthétiser, de transformer en glucose, qui va aller nourrir les bactéries, les champignons du sol.
Et inversement,
les bactéries et les champignons du sol qui sont nourris par le glucose que produisent les plantes, eux ont la capacité d'aller chercher du minéral que le végétal, lui, n'est pas capable d'aller chercher. En fait, c'est une symbiose, c'est un deal, quoi. Tu veux du glucose, file-moi du calcium, tu vois. Et donc ça c'est très important de le comprendre. Et à chaque fois qu'on va intervenir dans le sol, du coup, on est maintenant dans des pratiques. Quand on voit des sols à nu, on sait déjà que la lumière a déjà détruit beaucoup de vie, sans parler de l'eau qui va venir battre le sol. Du vent, on le voit très bien avec le grand vent là, comment le vent enlève les parties fertiles du sol. Donc avoir des sols couverts, avoir des sols travaillés, justement, préserver ces zones de ténèbres, c'est très important. C'est ce qu'on fait maintenant de plus en plus. On ne met pas le sol à nu. Chaque fois qu'on voit le sol à nu, on se dit qu'on a fait une faute, en fait. C'est une erreur de notre part.
Comment tu en es arrivé là, ça ? C'est quoi ton parcours pour arriver aujourd'hui au tiers-lieu de Sainte-Marthe à Grasse ?
En fait, moi, je me qualifierais de... Je suis un jardinier. Passionné de... Ouais, j'ai toujours été jardinier, j'ai toujours jardiné. Et puis il y a des moments dans ma vie où j'ai voulu comprendre un petit peu ce que je faisais dans un jardin. Donc j'ai commencé à jardiner avec mon grand-père et avec ses techniques de l'époque, avec une sape, la zappe classique du pays, quoi,
ouais.
À faire des choses comme il faisait lui. Et puis après j'ai évolué, moi, sur... Et puis j'ai voulu comprendre ce qui se passait, comprendre ce que je faisais quand je jardinais. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser à des... J'ai une forme de curiosité qui m'a poussé à m'intéresser à des pratiques un peu différentes de ce que je faisais. J'ai rencontré des gens qui étaient passés à l'époque à Terre Humanisme au Mat Beaulieu. Là. C'était un truc de Pierre Rabhi, c'est un centre de formation à l'agroécologie. Donc je suis allé voir un petit peu ce qu'ils faisaient là-bas, je suis resté quelques temps. Ensuite j'ai été amené dans ma vie professionnelle à me déplacer. Et j'ai été en zone australe et en Australie, j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient d'autres choses encore dans des fermes comme Mikoud ou des choses comme ça, où David Holmgren commençait à mettre en œuvre des pratiques, enfin déjà bien mettre en œuvre des pratiques permacoles. Donc ça aussi, ça m'a inspiré. Et ensuite, j'ai travaillé avec Eric Petiot, qui est un gars en Suisse, enfin au Pays de Gex, qui lui travaillait le soin naturel aux végétaux, parce que moi, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir... avoir cette approche de soins naturels au végétal. Et c'est comme ça que je suis venu aux plantes aromatiques et médicinales, en fait. Il y a une société grassoise qui voulait produire, donc ça c'était il y a presque 15 ans maintenant, qui cherchait à produire des rosiers en bio, parce que c'est très compliqué de produire des rosiers en bio à l'époque, il y avait des problèmes de rouille et autres, bref. Et ils étaient obligés d'utiliser des produits phytosanitaires issus de la chimie, et ils cherchaient quelqu'un qui soit capable de gérer une plantation, une roseraie, en bio avec zéro chimie. Et un ami à moi qui connaissait cette personne a dit je connais quelqu'un qui peut-être peut t'aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être consultant pour eux. On a produit des rosiers en bio, puis après des iris, puis après je suis rentré dans cette industrie de la parfumerie et j'ai continué à produire des plantes pour eux j'en suis arrivé là comme ça.
C'est quand même un peu original, parce que quand on dit l'industrie de la parfumerie, ça, on n'a pas une image écologique de la démarche.
Carrément. L'industrie de la parfumerie et des arômes, c'est vraiment une industrie qui n'est pas du tout écologique, en tout cas dans ses pratiques industrielles, quoi.
Et comment on arrive à faire un bilan carbone équilibré entre...
On n'arrive pas pour l'instant, on a un bilan carbone pourri. C'est une industrie qui a un mauvais bilan carbone, ça c'est clair. Mais c'est une industrie qui en a conscience. Et qui travaillent sur des solutions. Alors, il y en a qui travaillent plus ou moins vite. Le groupe Mulle travaille pas mal. Et le groupe Mulle a aussi l'avantage d'être agriculteur. Et du coup, il a aussi cette vision du champ et du vivant. Et peut-être que c'est pour ça que ça avance un peu plus vite chez nous, quoi. Mais les autres font aussi du travail sur ce sujet-là. Mais en effet, on est très conscient que c'est pas une industrie... qui soit vertueuse au niveau de ce qu'elle fait au niveau du carbone, quoi. Et quand on pense que tout ça, on le fait pour que quelqu'un fasse pchit à New York, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Voilà.
Et dans ton exposé, tu parles d'une parcelle expérimentale.
Oui.
Donc d'après ce que j'ai compris, vous avez des relevés sur 2-3 ans là, par rapport à cette parcelle expérimentale.
Oui, 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 oui.
À quel
à quel moment ces pratiques expérimentales pourraient être mises en pratique concrètement sur l'ensemble des productions de là où tu bosses?
Il y a déjà des choses qui sont mises en pratique. C'est-à-dire, dans cette parcelle expérimentale, on fait deux choses. On expérimente des nouveaux procédés qu'on a avant de les mettre en œuvre dans des parcelles agro en production. On applique aussi des solutions qu'on mettait déjà en œuvre dans nos parcelles agro, mais dont on vérifiait pas, entre guillemets, scientifiquement l'efficacité. Et donc, ce qu'on fait aussi dans cette parcelle-là, c'est qu'on met en œuvre ces pratiques et on vérifie scientifiquement. On a une ingénieure agro qui est attachée à cette parcelle et qui, son job, c'est de faire des mesures d'efficacité de ce qu'on fait. Et des mesures d'efficacité en termes de vie du sol, en termes de capture du carbone, en termes de production du végétal, en termes de qualité organoleptique du végétal. On va aussi loin que ça. Et là voilà, c'est la mission de cette parcelle. C'est une parcelle d'un hectare, c'est pas rien. C'est un gros investissement pour le groupe. Mais en même temps, on apprend énormément. D'abord parce qu'on vérifie des choses qu'on faisait intuitivement, mais qu'on n'avait pas vérifiées. Et on invalide aussi des choses qu'on faisait en pensant qu'elles étaient très bonnes. Alors on se rend compte qu'elles sont toutes pourries finalement. Et donc ça aussi, ça nous fait avancer. Et en plus, on met en œuvre des idées qu'on a, mais aussi des choses que font d'autres et qu'on a envie d'expérimenter pour voir comment ça marche. Tu vois. Donc c'est vraiment d'avoir une parcelle d'expérimentation comme ça, c'est génial. D'autant que dans cette parcelle, on fait ça au niveau agro, mais au niveau du végétal, on fait aussi de l'acclimatation parce qu'on est aussi dans un gros challenge d'adaptation au changement climatique. Et les plantes aromatiques sont aussi impactées que toutes les autres. Et donc là, dans cette parcelle, on acclimate des plantes qu'on n'a pas habituellement mises en culture sous nos climats. Et on commence à les mettre en culture. Je peux prendre un exemple parce que là, c'est pas confidentiel parce que c'est plus expérimental. Maintenant, on est en train de le faire on va le lancer en production. On a expérimenté le titri. Le titri, c'est une plante qu'on utilise beaucoup en aromathérapie. L'huile essentielle du titri, c'est une huile qui est très intéressante, qui vient, jusqu'à présent, était produite dans l'hémisphère sud, en Australie et en Afrique du Sud. Et on a mis en culture du titri en 2020 sur cette parcelle-là, au tout début qu'on a lancé cette parcelle. Et il est magnifique et on se rend compte qu'en fait, on peut produire du titri en France. On n'est plus obligé d'aller l'acheter en Afrique du Sud. Et du coup, on va mettre une parcelle de 5000 en culture en titri. Et ça, on a vérifié ça au GEX, au jardin expérimental, justement depuis 2 ans. Quoi.
Comment ils vous voient, les concurrents? Est-ce qu'ils lèvent les yeux au ciel en pensant que vous êtes des illuminés, ou ils se disent merde, ils sont peut-être pas, c'est peut-être pas con, et ouais, est-ce que ça peut faire tache d'huile?
Ouais, je pense que ça fait tache d'huile et tout le monde fait un peu ça et c'est bien, je trouve que c'est bien. Il y a dans cette industrie, ils sont tous un peu concurrents et en même temps confrères. Donc il y a aussi des confrères concurrents pour qui on expérimente des choses dans le GEX.
Et ils s'en servent.
Ils s'en servent, oui.
Donc au vu des résultats positifs de la permaculture, on peut envisager bientôt une industriaculture.
Ouais. Après, on ne fait pas que de la permaculture, mais on utilise aussi des outils permacoles, ouais. Pour moi, la permaculture, ce n'est pas la réponse à tout, mais il y a pas mal d'outils dans la permaculture qui sont utiles en agro et qui nous donnent en tout cas des... Enfin, la philosophie permacole qui veut qu'on protège le vivant, elle est quand même intéressante quand on la met en pratique de façon agronomique, quoi.
Tout à l'heure, dans son exposé, Christian Carnavalet, il a indiqué que globalement, l'agro-industrie serait obligée d'y venir, parce que l'épuisement des sols, et puis oui. Il serait obligé d'y venir. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard?
Je pense qu'il sera trop tard. Après, eux, ils veulent y venir. J'ai bien aimé l'intervention de Christian, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'ils y viennent sans changer fondamentalement les pratiques quand même. Ils ont des pratiques plus en lien avec la vie du sol. Mais ils continuent de faire de la monoculture centaines d'hectares.
Qui est quand même intensive.
Qui est quand même super intensive. Et surtout, il n'y a pas du tout de diversité ou très peu de biodiversité. Et on sait très bien que la fragilité de ces systèmes, c'est le manque de diversité et de biodiversité. Et donc ils sont toujours, à un moment ou à un autre, face à des problématiques qu'ils n'arrivent pas à gérer en naturel. On en parlait tout à l'heure avec une collègue là, tu sais, c'est le coût du tabouret. Un paysan, il te dit, un bon tabouret, il faut qu'il ait au moins 3 pattes. Une bonne exploitation, c'est pareil, il faut qu'elle ait au moins 3 pattes. Trois pattes, ça veut dire au moins trois sources de revenus.
Oui.
Si tu as un tabouret qui a une patte, c'est-à-dire si tu produis que du blé, le jour où tu as un problème sur ton blé, t'es très embêté. Mm-hmm. Avant, un paysan, il avait 5, 6, 7, 8, 10 pattes. Maintenant, un mec qui fait que du, du blé, mais par exemple, que du, si nous on faisait que du titri sur 50 hectares, si jamais il y avait un problème sur, les titri, sur 50 hectares de titri, c'est catastrophique. Et là, du coup, de façon naturelle, tu ne vas pas pouvoir intervenir, tu ne vas pas avoir de solution naturelle pour intervenir sur une problématique de pucerons sur 50 hectares. Et là, tu vas être obligé de revenir vers la chimie. Oui. Parce qu'il n'y a que la chimie qui est dimensionnée pour traiter des problématiques de ce niveau-là.
50 hectares, oui.
Voilà. Et donc, tant qu'on n'arrêtera pas de vouloir produire sur des surfaces aussi importantes, de la monoculture sur des surfaces aussi importantes, on sera toujours confronté à des problématiques qu'on n'arrivera pas à gérer en naturel.
Oui, il expliquait aussi qu'il y avait un travail du sol à effectuer pour améliorer les rendements. Et il a pris cet exemple qui m'a un peu perturbé, moi, parce qu'il a parlé d'aller plus vite. Alors que je suis sur une logique agricole qui dit qu'il faut laisser le temps au temps, et on le voit bien pour la régénération des sols, on sait très bien que ça met du temps, c'est un travail de longue haleine. Et donc ça m'a un petit peu étonné, cette référence à la vitesse, une forme d'urgence, alors qu'il explique par la réalité du monde agricole qui est dans l'urgence, qui a des obligations de production et qui pour cela, des fois, doivent mettre un petit peu peut-être sous le tapis des logiques de permaculture.
Oui, oui, c'est vrai. Après, il y a deux choses par rapport à ça. Christian, en ce moment, il est dans le maraîchage. Et en effet, dans le maraîchage, le maraîchage, c'est les exploitants agricoles qui sont le plus en lien avec le temps court. La salade, du radis en un mois, de la salade en trois mois, tu vois, voilà. Ils ont des problématiques complètement à l'opposé de ceux qui font des arboriculteurs qui... ou des forestiers.
Oui, oui, c'est
donc
clair.
Ils sont sur du temps court, donc eux, il faut qu'ils aillent vite. Et c'est toute la difficulté des exploitations maraîchères, c'est d'arriver à faire des choses qui soient viables dans le temps long, tout en faisant des productions dans le temps court. C'est toutes les difficultés du maraîchage.
Ben oui,
le sujet. Moi, j'ai été à l'époque avec les équipes Mulet et autres fondateurs de maraîchage sol vivant, et c'était ça la problématique, c'était comment on arrive à faire du vite fait, de la production vite fait, parce que c'est ça le maraîchage, et de qualité et en volume, sans exploser le sol à chaque fois, aller labourer à chaque fois, et c'est toute la difficulté, c'est tout l'enjeu, c'est un véritable enjeu. Il y a un gros travail qui a déjà été fait et qui est encore à faire, mais c'est des solutions qui sont les solutions qui préservent le vivant, qui sont pas dans le travail du sol, elles sont plus complexes, elles sont d'ailleurs un maraîchage sol vivant, pour te dire, il y avait des gars qui disaient, moi je préfère un bon coup de glypho à un bon labour. Mais par exemple, les bonduels et autres qui font des hectares de carottes et de petits pois, eux, pour eux, le glypho, c'est un outil. Ils vont plus labourer parce qu'ils ont compris qu'il fallait pas labourer. Mais par contre, ils vont balancer du glypho.
Oui.
Ils vont te dire, on fait du sol vivant. Non, tu fais pas du sol vivant.
C'est une autre façon de le tuer.
Oui, c'est ça. Une autre façon de le tuer. Enfin bref, je sais plus pourquoi on disait ça. Et du coup, la vitesse, moi, ce que je pense par rapport à l'agriculture et à la vitesse, ce qui a fait le plus de mal à l'agriculture, c'est... Enfin, ce qui a fait beaucoup de mal à l'agriculture, c'est quand les paysans... On a commencé à demander aux paysans de raisonner en termes de rendement. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les paysans, ils raisonnaient jamais en termes de rendement. Tu lui demandais combien de quetos de blé t'as fait à l'hectare, ils te disaient, j'en sais rien. Mais ça m'a rapporté 2000 francs.
Oui, oui, oui.
Mon champ de blé, là, il m'a rapporté 2000.
Oui, oui.
Ce champ-là, mes poiriers, là, ils me rapportent 1000 balles par an. Il était capable de te dire combien il avait gagné.
Oui, et puis il était capable d'évaluer ce que ça lui coûtait en temps pour gagner 1000.
Non, rapporter, c'est-à-dire combien il avait gagné avec.
Oui, oui. Mais
un paysan, il raisonnait en rentabilité. Et après la guerre, on lui a dit non, la rentabilité, on s'en fout, t'as pas compris, c'est le rendement qui compte. Ouais. Tu veux aller au concours agricole, tu veux avoir le plus gros poireau, avoir le plus gros labour, faire le plus gros machin. Combien de quintaux tu fais? Mais j'en sais rien, combien de quintaux je fais. Comment? Tu sais pas combien de quintaux tu fais. Le mec, il fait 80 quintaux, toi, t'en fais combien?
T'en fais 12, prends 3 sacs.
T'es un bidon, quoi, vas-y, prends ça, tu vois comment tu vas cracher ton blé. Ouais. Et c'est là
où ils se sont fait piéger.
Complètement. C'est là où les paysans se sont fait piéger, alors qu'avant, c'était eux qui piégeaient les autres.
Avec le concours du Crédit Agricole.
Avec le concours du Crédit Agricole, bien sûr.
Est-ce que tu interviens, est-ce qu'il t'arrive d'intervenir dans les écoles? Parce que le discours que vous avez tenu aujourd'hui, il est compréhensible. Alors, il y a certains... Mais sur le principe, l'image de départ où on voit une falaise de 30 mètres de haut, il y a 29 mètres 50 de roche et il y a 50 cm de terre.
Oui, c'est ça.
Je pense que ça peut être compréhensible dans les écoles où vous intervenez aussi.
Oui, on intervient et on a... Nous, en l'occurrence, en bas, les gens viennent des écoles de Pégoma, de La Roquette et tout ça, viennent voir, visiter le jardin expérimental. On va dans les écoles leur parler de ce qu'on fait. Oui, oui, on le fait, bien sûr.
Et là, les prochains objectifs, c'est quoi, alors ?
Pour moi, le plus important, l'objectif, c'est maintenant de continuer à mesurer comment on va aggrader nos sols.
Donc, ça me plaît, aggrader, parce que mi aggrade, ça veut dire ça me plaît en provençal.
Ouais, c'est ça.
Aggrader le sol.
Ouais, comment on va aggrader le sol ? Comment on va lui donner du plaisir, exactement ? Et parce que c'est toujours pareil. Au début, le premier step est assez facile à faire. Et là, tu vois tout de suite les effets parce que tu pars d'un sol tout pourri et que d'un sol tout pourri, t'en fais un sol qui va beaucoup mieux. Mais d'en faire un sol qui va beaucoup mieux à un sol qui va très bien, ça, c'est long. Et c'est là où on va éprouver nos pratiques et éprouver notre patience aussi. Et voir aussi les effets que ça va avoir sur la qualité organoleptique des plantes. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on va observer des différences dans la qualité des produits qu'on fait, quoi.
Si parmi les gens qui nous écoutent, là, s'il y a quelqu'un qui veut savoir la qualité du sol de son jardin, il fait quoi ? Il enfonce une bêche, il retourne un petit morceau et il regarde s'il y a des vers, des bestioles et si ça bouge ?
Oui, déjà, c'est une bonne chose à faire, oui, c'est sûr. Donner un petit coup de bêche et retourner, regarder si on voit des choses vivre. Déjà, est-ce qu'il est nu, est-ce qu'il est couvert ? Est-ce que la bêche, elle rentre toute seule ou est-ce qu'il faut que tu appuies fort pour qu'elle rentre, tu vois ? Est-ce que ton sol, il est très compact ou est-ce qu'il est très aéré, très, très facile à pénétrer ? Moi, dans mon jardin, parce que je jardine toujours chez moi, évidemment, maintenant, je n'ai plus d'outils. Mes seuls outils, c'est mes mains. J'arrive à rentrer jusqu'au-dessus de mon poignet, tu vois, ma main sans rien faire dans mon sol. Dans mon jardin, alors qu'avant, il fallait que j'avais toujours un petit outil métallique pour pouvoir jardiner, quoi. Et depuis quelques années, maintenant, ça va de mieux en mieux et maintenant, j'utilise plus aucun outil. Je jardine avec les mains. D'accord. Ça, c'est un très bon exemple de sol de meilleure qualité. Voilà. Et donc après, comme tu dis, observer tout ce qui est vivant, la macrofaune, tout ce qu'on voit. Et après, évidemment, tu peux toujours passer par une analyse de sol, si t'as un peu 80 euros à mettre, pour voir un peu comment ça va d'un peu plus près, quoi.
D'accord, pour savoir quels apports...
quelles
pratiques place pour...
Non, mais c'est surtout connaître, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux quand tu connais ton sujet. Donc, si tu sais que, par exemple, tu as un sol déjà avec un pH acide, il y a des choses que tu ne feras pas, ou un pH très basique. On a souvent chez nous des sols très alcalins, par exemple. Ouais. Moi, par exemple, je suis à Saint-Vallier, j'ai un sol à 8,3, donc le pH... Le pH normal d'un sol neutre, c'est 7. Donc 8,3, c'est très élevé. J'ai beaucoup de choses bloquées, c'est très compliqué. Donc quand tu sais ça, tu vas faire des choses pour essayer de réduire le pH.
Comment tu réduis ça ?
C'est très long. Autant c'est très facile de basifier un sol.
Ouais.
Un sol acide, à l'époque, il filait un coup de chaud et puis c'était fini, quoi. Et en une action, ils avaient résolu le problème. C'était pas toujours génial, mais c'était fait. Par contre, pas acidifier, mais disons désalcaliniser un sol qui est très alcalin, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps et c'est des apports réguliers. Mais moi, entre autres, j'ai fait des apports de poudre de roche, du basalte,
ouais.
qui est de la roche jeune, tu vois, sur des roches très anciennes, justement, ça t'apporte beaucoup de magnésium et t'as tendance à réduire un peu ton pH. Et après, il faut mettre beaucoup de matière organique, éviter de la brasser et petit à petit, elle va faire le job de tamponner. En fait, tu vas tamponner ton pH. Et pour te dire, moi, ça fait presque 20 ans que je fais des pratiques comme ça. Et je suis passé de 8,3 à 7,8. Donc, tu vois, et ça, il vaut mieux que tu le saches au départ. Donc, faire une petite analyse de sol, c'est toujours intéressant au départ.
Et s'il y a des gens qui veulent se renseigner par rapport à ça, il y a un site, il y a un endroit, tu peux donner quelques coordonnées. S'il y a des gens qui disent, j'aimerais bien savoir.
Tu trouves ça, mais après, si tu veux savoir chez qui faire analyser ton sol. Dans ta région,
non, mais par rapport à ce que vous faites, vous, tu as parlé de la possibilité de venir sur place pour voir ce que vous faites.
Le GEX, il n'est pas ouvert au public. C'est pas parce qu'on ne veut pas, on n'a rien à cacher, mais c'est parce qu'on a autre chose à faire.
Oui, j'imagine. Visites,
mais une fois par an, il est ouvert.
Il y a une journée porte ouverte.
Oui, il y a une journée porte ouverte. Il y en a une tous les ans. Et on est là pour ça, pour expliquer aux gens que ça intéresse, quoi, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait et quels ces résultats on a.
On va faire une petite pause musicale, monsieur Palach.
Allez, très bien, d'accord.
C'est bien ça, hein ?
Ouais.
Ouais, puis on revient juste après.
Merci beaucoup.
Allez, bravo.
Bravo.
Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, État du Missouri.
c'est à Saint-Louis que je suis né. Aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevets. Des reproches, on m'en fait trop, qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce au lien qu'on a créé via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraînées. Des OGM à l'argent orange en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude d'accord envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar, alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine pour que ce monde, je le domine, que son avenir, je le dessine. Pour ça, je suis toujours prêt à jouer à l'assassin. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre un dollar. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni morale ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable? Mais si un jour elle l'est, breveté, elle le saura aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère. Parce qu'à être la plus réputée, j'aspire tout comme dominer l'avenir de cette humanité, sur qui je suis prêt à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto, que de la vie du monde et son avenir. On est les véritables bourreaux. Oui, les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevets ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse.
On va aller voir à la chapelle, ouais, ouais. On va vous faire entendre un truc de fou.
Ouais, donc là on est au tiers-lieu, on va passer à côté des poules et du potager. Ils ont un lieu où ils font du compostage. Là, ils ont fait de la récupération de bouteilles en plastique pour faire des genres de massifs de fleurs, c'est décoratif. Et donc là, on va passer, alors périlleux, hein, parce qu'il y a un arbre qui a pris un coup de vent ce matin, il est fendu en deux, s'il faut, on va le prendre sur la gueule. C'est peut-être notre dernier reportage, d'ailleurs. Là, on est devant la serre bioclimatique, on est au pied de la ville de Grasse, et on va aller dans la chapelle galerie. Alors, cette chapelle n'a pas été, je ne sais pas comment on dit...
Désacralisée.
Elle a été désacralisée, ce qui permet de pouvoir péter à l'intérieur, et même de rentrer avec une bière, sauf qu'il n'y a pas de bière. Il n'y a pas de pinard, il n'y a pas de viande.
Puis notre vous... premier jour sans alcool.
Oui. Voilà, on est dans la chapelle, où là, on est censé voir et entendre le biotope, en fait, ce qui est sous nos pieds. Et donc, il y a toute une installation avec... Tout est pendu, des branches, des bouts de tissu et au sol. Mais on va avancer, vous allez essayer de deviner. C'est comme si on était dans une forêt sans arbres, en fait. Et donc là, il y a une estrade, et puis ils sont posés dessus. Il y a une caisse, alors je suppose qu'à l'intérieur, il y a des bestioles, des bactéries, tout un tas de trucs, avec quatre casques qui permettent d'écouter
le bruit qu'on a sous les pieds.
Et oui, ils ont rempli une boîte. Bon, on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Ils ont mis des micros à l'intérieur. Et on peut écouter ce qui se passe dans la boîte. Mais je crois que dans la boîte, effectivement, c'est de la terre avec... Ah, on ne voit pas. On va vous faire écouter. Je vais essayer de prendre le son qui sort du casque. Je vais rapprocher. Un petit peu, mais...
Oui, il n'y a pas beaucoup de bestioles aujourd'hui, c'est samedi, là. Puis avec le coup de vent, il y a quelques-unes qui ont dû sécher. Mais enfin, c'est un lieu qui est très intéressant. On vous invite vraiment à venir donc, au tiers-lieu Sainte-Marthe et Valéco. C'est derrière le palais de justice, juste au-dessus de la clinique du palais, à Grasse. C'est un lieu qui est ouvert, il y a beaucoup de jeunes. C'est un lieu qui est dédié à la recherche en sciences sociales, mais pas que. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle du biotope. Et donc, on va repasser sur ce tapis de feuilles mortes.
Ouais, de platane, magnifique. Enfin bon, ils ont salopé tout l'intérieur de la chapelle.
Ils balayent. Hein.
Ouais, qui c'est qui nettoie après? Ben voilà, merci beaucoup. Magnifique.
Allez, tous les lombrics, tape dans les mains. On monte le volume du compost à fond. Faut que ça chauffe.
YouTubercule.
Mais vous n'y échapperez pas.
Vas-y, Patrick.
Jamais.